VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson, votre compagnie. En ce mardi 9 juin 2015, les titres ce matin: au Burundi, l'opposition estime illégitime le nouveau calendrier électoral que propose la CENI. Le gouvernement congolais affirme que la décision d'exhumer 421 corps enterrés dans une fosse commune près de Kinshasa revient au magistrat chargé de l'affaire.
Nous rejetons donc les prétentions de Human Rights Watch à se substituer au magistrat qui est chargé du dossier.
Conflit en Libye, de nouveau pour parler entre les deux parlements rivaux entamés au Maroc. La lutte contre le groupe État islamique, le président Obama affirme que la coalition que conduit son pays manque complètement de stratégie. Dans la partie magazine, gros plan sur les points d'accord parvenus au sommet du G7 en Allemagne.
Très important ici dans le sommet, c'est la question du terrorisme. On a parlé des groupes, l'État islamique, les présidents du Nigeria, la Tunisie, l'Irak ont participé comme invités. Un très grand sujet de discussion, c'est l'effort contre le Boko Haram.
Ne manquez pas non plus la Minute Éco et le billet sportif. Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a proposé de nouvelles dates pour les élections, dates qui attendent d'être validées par le pouvoir. Certains leaders de l'opposition contestent cette décision, davantage avec Eddie Isango.
Les chronogrammes proposés par la CENI fixent les législatives au 26 juin, suivi de la présidentielle le 15 juillet et des sénatoriales le 24 du même mois. Ces dates prennent en compte les recommandations des leaders d'Afrique de l'Est qui avaient suggéré un report des différents scrutins, a fait savoir Prosper Ntaoroamiye, un porte-parole de la commission électorale. Le conseiller présidentiel Namitwe a indiqué de son côté que le gouvernement discute des nouvelles dates avec les leaders de l'opposition et de la société civile et qu'une légère modification n'est pas à exclure. Certains opposants soutiennent que la CENI n'a pas l'autorité légale pour proposer des dates en l'absence de deux de ses cinq membres qui seraient hors du pays. La présidentielle devait se tenir le 26 juin, mais la campagne électorale est au point mort depuis les violentes manifestations dans le pays et la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza. Les États-Unis ont appelé les dirigeants burundais à ne pas briguer un autre mandat, estimant que cela déstabiliserait son pays.
En République démocratique du Congo, le gouvernement réagit au communiqué de l'ONG Human Rights Watch, appelant Kinshasa à exhumer les 421 corps enterrés dans une fosse commune à Maluku, située à environ 80 km de la capitale. Les familles craignent que cette fosse ne contienne les cadavres de victimes des forces de sécurité et ont donc déposé une plainte publique auprès du procureur général de la République. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa, a recueilli les propos du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mendy.
Le magistrat décidera de ce qu'il faut faire si les plaintes sont recevables. D'abord, une plainte n'est pas déclarée recevable de manière automatique. Donc, nous attendons que le magistrat décide. Le dossier n'est pas fermé. C'est le magistrat qui a lancé un appel à plainte. Donc, c'est le magistrat qui décidera et non Human Rights Watch. Nous rejetons donc les prétentions de Human Rights Watch à se substituer au magistrat qui est chargé du dossier. Et je répète ce que le gouvernement a dit, que au besoin, tous les devoirs de l'enquête seront réalisés avec le soutien du gouvernement. Si le magistrat estime que l'exhumation est nécessaire, le magistrat le demandera, mais il n'appartient pas à Human Rights Watch à se substituer à nos institutions.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. À cette occasion, les dirigeants devraient se pencher sur les problèmes d'infrastructure, mais également sur la vague de migrants en Méditerranée. Le point avec Lionel Gaïma.
Ce sommet conserve pour thème celui du sommet de janvier 2015, à savoir l'année de l'autonomisation de la femme et du développement vers l'agenda 2063 en Afrique. Il est présidé par le Zimbabwe, qui assure la présidence de l'Union africaine en 2015. Pour la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabane, l'éradication de la pauvreté reste la priorité des participants.
It's going to take our will to Il faudra avoir la volonté de retrousser nos manches, de tirer sur nos chaussettes, en particulier les jeunes, et d'œuvrer à la prospérité du continent et à l'éradication totale de la pauvreté grâce à une transformation économique radicale.
L'Afrique se développe rapidement, mais de l'avis des experts, les infrastructures du continent, routes, réseaux électriques notamment, laissent beaucoup à désirer et entravent la croissance. Lors de l'édition africaine du Forum économique mondial qui s'est tenue au Cap début juin, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD a d'ailleurs annoncé la création de plateformes d'investissement pour soutenir les projets d'infrastructure et d'agriculture. Également au menu de ce 25e sommet de l'Union africaine, l'instabilité politique au Burundi et la guerre au Soudan du Sud, ainsi que la menace terroriste dans des pays tels que le Nigeria, la Somalie ou le Kenya, mais aussi le drame des migrants en Méditerranée.
Les parlements rivaux libyens ont ouvert hier soir une nouvelle session de négociations au Maroc, jugée décisive par l'ONU. Des pourparlers qui interviennent à l'appel également des dirigeants du G7 qui ont réclamé des décisions politiques audacieuses pour mettre fin à la guerre civile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition conduite par les États-Unis contre les militants du groupe État islamique manque complètement de stratégie, a déclaré le président Barack Obama lundi. Le chef de l'exécutif américain a dénoncé un déficit de soldats chez les forces irakiennes et a fait part d'un décalage entre les contributions de l'extérieur et celles de l'Irak. Jean-Roger Bion.
Nous ne disposons pas encore d'une stratégie complète car elle exige des engagements de la part des Irakiens. Ainsi parlait M. Obama après le sommet du G7 en Allemagne, en marge duquel il a eu des entretiens avec le premier ministre Haider al-Abadi de l'Irak. Les pourparlers interviennent moins d'une semaine après que M. Abadi eut appelé à plus d'aide de la part des membres de la coalition dirigée par les États-Unis, qui depuis plus d'un an apporte un appui aérien à l'armée irakienne. Le premier ministre irakien a réitéré lundi sa demande, informant le président américain que l'Irak ne peut pas le faire tout seul, le pays ne disposant pas de ressources. M. Obama a dit avoir demandé à M. Abadi de recruter davantage dans les tribus sunnites, en particulier dans la province d'Anbar, où l'État islamique a affiché une rapide et étonnante vigueur au mois de mai, au point de prendre Ramadi la capitale de la province. Sans un niveau de participation au plan local, la reconquête de ces zones sera difficile, a martelé le président Obama. Près de 9000 soldats irakiens ont été formés dans 4 bases américaines dans le pays, selon le Pentagone. Un autre contingent de 2600 recrues est en préparation. Le président Obama a toutefois reconnu ce qu'il a appelé l'héritage de méfiance auquel fait face le premier ministre Abadi, dans un pays très sectaire qui manque de confiance dans son gouvernement central.
Pendant ce temps, les autorités américaines ont rendu publique hier une vidéo montrant la mort d'un islamiste présumé abattu par la police la semaine dernière à Boston, dans le Massachusetts, pour mettre fin aux rumeurs et fausses informations, comme le rapporte l'AFP. Oussa Amar Rahim était soupçonné d'avoir projeté de décapiter des policiers au nom du djihad. La famille de Rahim avait dans un premier temps affirmé qu'il avait été abattu dans le dos. La vidéo, d'après la famille, était importante. Autant pour ce qu'elle ne montre pas que pour ce qu'elle montre. Et les parents d'ajouter que leur fils n'enfreignait pas les lois.
Les Américains nés à Jérusalem n'en pourront pas ajouter Israël sur leur passeport. C'est ce qu'a statué hier la Cour suprême des États-Unis. Les précisions de Michel Joseph.
Le président des États-Unis a le pouvoir exclusif de reconnaître ou non la souveraineté d'un pays sur Jérusalem. Ainsi, en a tranché lundi la Cour suprême des États-Unis, réaffirmant le pouvoir de l'exécutif en matière de politique étrangère comme prévu par la Constitution. La décision était très attendue. L'affaire remonte à 2002. Le président George W. Bush avait promulgué une loi du Congrès autorisant un citoyen américain né à Jérusalem à porter la mention Israël sur son passeport. Mais il avait assorti sa signature d'une condamnation, évoquant une ingérence inacceptable dans le pouvoir de l'exécutif à mener la politique étrangère des États-Unis. La Haute Cour a finalement tranché, estimant que la loi fédérale de 2002 empiète sur la décision persistante de l'exécutif de refuser de reconnaître une souveraineté s'agissant de Jérusalem. Sur le plan de la politique étrangère des États-Unis, ni Israël ni aucun autre pays n'est reconnu comme ayant la souveraineté sur Jérusalem, peut-on lire dans la décision.
Toujours aux États-Unis, l'armée de terre a annoncé hier avoir temporairement fermé son site internet après un piratage revendiqué sur Twitter par l'armée électronique syrienne qui soutient le président Bachar al-Assad. Dans un communiqué, l'armée de terre affirme avoir pris les mesures préventives appropriées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vol de données de l'armée. L'AFP rappelle que l'armée électronique syrienne a déjà mené des attaques contre les sites internet de grands médias, dont ceux du New York Times ou du Washington Post.
Il est l'heure de passer aux nouvelles économiques en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est la Minute Éco, préparée et présentée par Nathalie Barge.
Le gouvernement burkinabé va investir environ 21 milliards de francs CFA pour la construction d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures à Péni, dans l'ouest du pays, rapporte l'APA, citant des responsables de la Société nationale des hydrocarbures. Pour satisfaire les besoins en stockage jusqu'en 2025, il était devenu impératif d'envisager la mise en place de 60 jours de stock de sécurité et 30 jours de stock de roulement, souligne Gambetta Aboubakar Nakro, directeur général de la Sonabi. Le dépôt de Péni a été choisi en raison de sa desserte aisée par la route, le chemin de fer et le pipeline en provenance de la Côte d'Ivoire. Dans son édition du 8 juin, Jeune Afrique se penche sur les défis économiques du nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari. Lutte contre la corruption, développement des infrastructures et répartition plus équitable des richesses. Pour tenir ses promesses électorales, Muhammadu Buhari va devoir restructurer la filière pétrolière, estime le journal, rappelant que la compagnie pétrolière nationale est minée par des problèmes de gouvernance et de corruption qui entraînent un grand gaspillage des richesses de l'État. Les pays du G7 ont promis de réduire la part du carbone et ont approuvé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, sans pour autant s'assigner des objectifs individuels contraignants, rapporte le Nouvel Observateur.
Merci Nathalie. Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Pour cela, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
D'abord cette défaite du Togo sans Emmanuel Adebayor.
Oui, écarté de la sélection avec Floyd Haïté et Kossi Agassa, la star des Éperviers n'a pas participé à la défaite 1-0 à Accra face aux Black Stars. C'est Bernard Mensah qui a inscrit l'unique but ghanéen de la rencontre. Le Togo, je vous le rappelle, affrontera samedi le Gabon pour le compte des éliminatoires de la CAN 2017.
Dembaba forfait.
Dembaba ne pourra pas affronter le Burundi samedi avec le Sénégal. L'attaquant est blessé, a indiqué la fédération sénégalaise sans donner plus de précisions quant à la nature de sa blessure. Le gardien Lys Gomis est également forfait pour cette rencontre.
La Centrafrique a un nouveau sélectionneur.
Sans titulaire attitré depuis le départ de Raoul Savoie fin 2014, le poste de sélectionneur des Fauves du Bazoubangui a été confié à Blaise Kopogo, âgé de 42 ans, cet ancien joueur devenu entraîneur dans la région bordelaise, sera assisté d'Hervé Lugunji, entraîneur adjoint, et de Jean-Louis Bingo, chargé des gardiens de but.
Parlons maintenant du tirage au sort des poules de la Coupe de la Confédération.
Le club égyptien d'Al Ahly, tenant du titre, affrontera le Stade malien, l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile du Sahel en phase de poule. Selon le tirage au sort effectué hier au Caire, la phase de poule se déroule du 26 juin au 13 septembre. Dans l'autre groupe, le groupe B, l'AC Léopard de Dolizy face aux Orlando Pirates, aux CS Sfaxien et aux Amalek d'Égypte.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Aucun match ce lundi en attendant les huitièmes de finale. Mercredi, coup de chapeau puisque l'Afrique est reçue 4 sur 4. Il y aura au moins un pays africain en quart de finale puisque le Ghana et le Mali s'affrontent demain. Toujours demain, le Sénégal contre l'Ukraine. Et puis Jacques, un mot de football féminin avec la Coupe du Monde actuellement qui se joue au Canada.
Oui, avec l'entrée en lice des Nigérianes et des Camerounaises hier soir, eh bien, un but de Francisca Ordega a permis au Nigeria de soutirer un verdict nul de 3-3 à la Suède. Quant aux dames du Cameroun, elles l'ont emporté sans difficulté. Avec un gain de 6-0 sur l'Équateur, les États-Unis, eux, sont aux commandes du groupe D après leur victoire de 3-1 contre les Australiennes. Enfin, l'équipe féminine du Japon s'est imposée cette nuit 1-0 contre la Suisse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro, vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure maintenant d'entamer la tranche magazine. Plein feu d'emblée sur le sommet des pays du G7 conclu hier en Allemagne. Les dirigeants de ces grandes puissances industrielles ont affirmé leur ferme détermination à adopter un accord lors de la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre prochain. Ils ont aussi pris des engagements sur différents dossiers allant de la crise en Ukraine au développement en Afrique. Pour faire le point, Timothée de Nangmaï a joint sur place notre envoyé spécial Luis Ramirez.
Premièrement, les mandataires du G7 ont accordé de continuer les sanctions contre la Russie à cause de ses actions à l'Ukraine. Il y a eu aussi un avertissement. Si les Russes ne respectent pas les accords de Minsk, retirer ses troupes et matériel de l'Ukraine, il y aura plus de mesures. Le président Obama a utilisé cette opportunité pour promouvoir ses efforts pour obtenir un traité de commerce transpacifique, quelque chose de très important pour le G7. Le président américain a dit que ce traité aura un très grand avantage pour les classes moyennes aux États-Unis. Très important ici dans le sommet, c'est la question du terrorisme. Lundi, il y a eu une session où on a parlé de la situation des militants du groupe l'État islamique. Dans cette session, les présidents du Nigeria, la Tunisie, l'Irak ont participé comme invités. Un très grand sujet de discussion, c'est l'effort contre le Boko Haram en Nigeria. Le président Obama a eu une réunion bilatérale avec Hadar al-Abadi. Ils ont parlé des avances très alarmantes de l'État islamique dans ce pays. La chute de Ramadi, dit M. Abadi, c'est seulement une avance temporale. Il semblait très confident que les forces irakiennes vont vaincre les militants. M. Obama dit qu'il y a quelque chose à faire. Premièrement, il a parlé de l'importance d'accélérer l'entraînement des troupes irakiennes par les États-Unis et ses alliés.
Le président nigérian Muhammadu Buhari devait présenter une liste de requêtes au sommet. Qu'en est-il?
Oui, c'est une liste très longue. On peut résumer comme ça. Cette liste est dominée par la question de la sécurité, la menace du Boko Haram. Les G7 ont accordé de travailler avec le Nigeria pour augmenter la coordination des efforts avec les forces américaines, coordonnées avec les forces nigériennes dans la lutte contre le terrorisme.
Quelle a été la place de l'Afrique à ce sommet du G7?
Très important, vraiment. Les mandataires de l'Éthiopie, le Libéria, le Sénégal, l'Union africaine sont aussi invités à participer au sommet. Le président Obama a dit que le G7 a accordé de continuer une initiative importante pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutrition dans les pays en développement. Il a parlé aussi de continuer les efforts contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Il a dit que l'objectif, c'est de réduire le nombre de cas à zéro. Ils ont l'intention de croître aussi la capacité des pays africains à développer ces sources d'énergie renouvelables. Ils se sont engagés à travailler avec 60 pays pour améliorer la santé et éviter les épidémies comme la récente épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans le communiqué final, ils ont parlé de l'importance de renforcer les institutions démocratiques et les opportunités économiques croissant à travers de l'Afrique, de l'établissement de la stabilité en Somalie. Ils ont réitéré que leur engagement continue à soutenir les partenaires africains à relever les défis de la sécurité, la gouvernance et la stabilité, notamment au Mali, le Soudan, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Nigeria et plus récemment Burundi.
Direction la Guinée maintenant. Le dialogue politique maintes fois reporté entre le gouvernement et l'opposition aura finalement lieu la semaine prochaine. La date du 15 juin a été évoquée. C'est du moins ce que propose la mission gouvernementale qui a rencontré les deux parties depuis Conakry. La correspondance de Zakaria Camara.
C'est à l'issue de sa rencontre samedi avec la mouvance présidentielle, après celle avec l'opposition il y a quelques jours, que la mission gouvernementale annonce la tenue prochaine du dialogue tant attendu. Le ministre de la Justice, qui a conduit la mission, précise que la loi doit être respectée, même si Maître Cheikh Sako estime que les discussions pourraient porter sur les accords.
Le dialogue véritable va commencer vraisemblablement la semaine du 15 juin, mais avant le début du dialogue, Nous avons considéré au niveau gouvernemental qu'il y a lieu d'avoir un entretien informel aussi bien avec l'opposition qu'avec la mouvance. Cela permet de régler à minima certains obstacles qui sont sur le chemin du dialogue. Le domaine de la loi, il faut vraiment le respecter. Et puis, les accords peuvent porter sur un certain nombre de points qui seront discutés lors du dialogue qui va s'ouvrir dans la semaine du 15.
Ouvrir le dialogue est une chose, mais l'ordre du jour en est une autre. Et pour le vice-président de l'Assemblée nationale, il n'est pas question de toucher au calendrier électoral. Saloum Cissé estime que sur les deux, seule la date des communales est négociable. En plus, certaines conditions posées par l'opposition doivent être réglées par la loi, précise-t-il.
Tout ce qui relève de la loi, c'est l'Assemblée qui doit intervenir. Et tout ce qui relève du consensus, tenez-vous bien, nous sommes prêts à accepter pour qu'on se donne la main. Le gel des activités de la CENI sera sur la table et nous allons en discuter. La date qui relève de la loi, nous ne pouvons pas modifier, telle que le mois d'octobre pour les élections présidentielles. Là, pour les élections communales, nous allons essayer d'analyser avec l'opposition pour voir les contraintes internes et externes.
Parlant de loi, cet avocat estime qu'il faut d'abord organiser les communales avant la présidentielle. Maître Amadou Ouri Diallo.
En ce qui concerne le domaine de la loi, il est dit que lorsqu'un mandat expire, il faut le renouveler immédiatement. Le mandat des délégations spéciales étant expiré depuis plusieurs années, normalement, si on doit respecter la loi, ce mandat devrait être renouvelé avant celui du président de la République, puisque le mandat du président de la République n'est pas encore expiré.
Une question est celle de savoir que peut-on attendre de ce dialogue. Ibn Massouri Traoré, éditorialiste, propose une piste de solution.
Toutes les parties ont participé aux élections législatives, donc on peut remplacer ces délégations spéciales par des personnes qui sont issues des partis qui ont participé à ces élections législatives, c'est-à-dire des partis surtout sur la liste nationale, donc au prorata de ce qu'ils ont gagné pendant ces élections. Et puis on peut meubler ces délégations spéciales en attendant la présidentielle.
Conakry, Zakaria Kamara pour la Voix de l'Amérique.
Oui, l'opposition guinéenne affiche un certain optimisme quant à la tenue de ces pourparlers. Néanmoins, comme vous venez de l'entendre, des préalables restent à respecter. Jérôme Dorsil a joint le leader de l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Écoutez Gandhi Tunkara.
Comme vous savez, il y a quand même des préalables que l'opposition a eu à poser. Parmi ces préalables, il y a la libération de tous les prisonniers qui avaient été arrêtés lors des manifestations et condamnés. Ça, c'est un préalable capital parce que l'opposition pense qu'il lui serait difficile de se mettre à une table de négociation alors qu'elle a des militants qui sont encore détenus pour des manifestations qui ont été faites. Donc, est-ce que le gouvernement va accéder à cela? On ne sait pas, mais je crois que c'est un préalable fondamental pour nous.
Alors, quand vous dites que c'est un préalable fondamental pour nous, est-ce que vous parlez au nom de toute l'opposition ou bien c'est votre point de vue personnel?
C'est mon point de vue personnel, mais c'est surtout un point de vue qui a été décidé ou arrêté, plus ou moins au sein des dernières discussions avec les autres collègues de l'opposition. Mais bien entendu, je parle à mon nom personnel là.
Vous vous montrez optimiste, M. Tonkara, mais il reste encore, si je vous comprends bien, une possibilité que cette rencontre n'ait pas lieu.
Oui, il y a cette possibilité qui existe. Nous espérons vivement parce que nous sommes de l'opposition plurielle, mais pas radical. Nous sommes de l'opposition modérée. Donc notre souhait, c'est que cette discussion puisse commencer pour que la Guinée sorte de cette situation de blocage. Mais bien entendu, comme je vous ai dit, l'opposition étant plurielle, il y a des radicaux et souvent ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, qui parfois tirent les choses dans un autre sens.
Si la rencontre a lieu comme prévu, à quoi vous attendrez-vous?
Nous attendons à ce que de part et d'autre, il puisse y avoir des concessions, notamment sur les points d'achoppement, tels que l'ordre des élections.
Vous aimeriez que la présidentielle soit le dernier scrutin à avoir lieu, c'est ça?
Exactement, tout à fait. Mais il y a aussi le fichier. Vous savez, le fichier électoral actuellement n'est pas maîtrisé. Nous ne savons pas quelles sont les données qu'il contient et nous voudrions qu'éventuellement, comme cela s'est passé lors des législatives, qu'il puisse y avoir une expertise extérieure. La dernière fois, je crois que c'était l'Union européenne. Donc il a été difficile, selon nous, de faire certaines manipulations. Comme le gouvernement a décidé qu'il ne voulait plus d'assistance dans ce domaine, donc nous sommes un peu suspicieux que nous n'ayons pas la maîtrise de ce fichier électoral-là.
Gandhi Tonkara, leader de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Une conférence économique pour la reconstruction du nord du Mali se tiendra en septembre à Paris sous l'égide de l'OCDE. C'est ce qu'a annoncé hier le chef du gouvernement malien. C'était lors de sa déclaration de politique générale. Modibo Keïta s'exprimait devant le Parlement à Bamako où nous retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Devant les élus de la nation, le Premier ministre a décortiqué les documents que les membres du gouvernement doivent traduire en actes concrets dans les jours et mois à venir. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali.
Nous avons choisi de bâtir la présente déclaration de politique générale autour de trois axes. Visant premièrement à assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Troisièmement, promouvoir la justice et l'équité.
Pendant une heure de temps, le Premier ministre a touché à tous les segments de la société malienne. Construction de routes, d'infrastructures de développement, mais aussi la situation sécuritaire dans le nord du Mali, avec en toile de fond la situation sur le terrain.
Nous sommes meurtris devant ces scènes d'agression multiples, qui hélas ne cessent de s'amplifier. Cela, nous le déplorons, et le gouvernement a la ferme détermination d'y mettre fin avec le concours de tous. Monsieur le Président, honorables députés, je mesure toute la place de la sécurité dans la construction, la consolidation de la paix et le développement. C'est dans ce sens que la réforme du secteur de la sécurité commencée en août 2014, avec la création du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, sera poursuivie par la mise en place des organes du dit conseil et le recrutement de leur personnel.
Point de développement sans un assainissement du secteur financier, surtout que le Mali vient de connaître des cas de corruption dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires.
Pour l'assainissement des finances publiques, les mesures à prendre s'orienteront dans le sens de l'amélioration de la performance des régies financières, l'efficacité et la transparence dans les procédures de passation des marchés publics et de contrôle de la dépense publique seront renforcés.
La paix et la sécurité dans le nord du Mali, pour Kappa dans le Mali entier, ont une place de choix dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, pour qui il faut aller aujourd'hui vers une révision constitutionnelle afin d'aboutir à une bonne application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Londonien célèbre, PAC de London, Richard Botouli, Max Chibouye, groupe TV Service et Papa Max Chibouye.
Namatouina yoka kisa wilfred bambili yopo ingai Nzoka maloba nwesa na kimbeli eti na pota na emotema Tala pota mweboko kauka
Beboti bankoso Somo na ngata yebembe Tulina mwaka mama yebo Kuteko salata mwadye
Robingele elogata
Bafwaze kutu bako makyo melaso ipo ya muranga na yo Bolingo ya ngwele kakisukali na misoho ya bato
Quelques petites notes de musique pour clore le monde aujourd'hui, en ce mardi 9 juin, à la réalisation Anne Albertson. Charles Hall était notre ingénieur. C'était Jacques Aristide à Washington. Excellente journée de mardi. À demain matin. Take care.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.